Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 22 février 1996.
Nous avons donc essayé, au terme de l'analyse de la philosophie première, de la métaphysique, ce qui est regardé en tant qu'il est. Ceci est avant tout à l'égard de l'homme. Entre le « ceci est » et « je suis ». Nous avons essayé de préciser première dimension de la personne humaine, l'autonomie, puis la recherche de la vérité. Et la capacité de réaliser ce lien d'amour, d'amitié avec une autre personne humaine. Ces trois aspects se tiennent du reste très profondément. On pourrait dire que c'est l'être et l'esprit. Et au fond, c'est ça la personne. La personne, c'est l'être et l'esprit, ou c'est l'esprit et l'être, mais j'aime mieux dire l'être et l'esprit. Nous essayons de comprendre, après toute l'analyse métaphysique de l'être, cette expérience particulière que nous avons de notre « je suis », de notre personne au niveau métaphysique. Ce n'est plus la recherche de ce qui est, mais la manière, le pos, la manière, le comment, la manière dont l'être n'est donné à travers cette expérience tout à fait particulière que j'ai de moi-même, mon je suis, mon autonomie. Spirituelle. Et puis, ces deux grands aspects de l'âme spirituelle, cette recherche de la vérité et ce lien d'amour, d'amitié. Il faut tout le temps revenir à cela. Être, esprit. Oui, au fond, c'est cela qui est de si mystérieux. Personne humaine, vue du côté métaphysique et non pas du point de vue psychologique. La psychologie existe, mais elle est dépassée par cette recherche la plus radicale que nous pouvons faire sur notre je suis. Et nous étions arrivés à cette quatrième dimension. L'homme capable de s'organiser lui-même. Les psychologues diraient gérer son capital de vie. J'aime pas beaucoup cette expression. Je la cite pour que on la rencontre souvent. C'est la prudence. La sagesse pratique, se connaître soi-même selon ses capacités et ses limites, et cela en vue justement de cette recherche de la vérité et en vue de cet amour d'amitié. Cet amour d'amitié étant le premier moment où je découvre entre ceci et je suis. Mon je suis n'est jamais adéquat à ceci et. Et ceci m'oblige, si je le regarde bien, à me dépasser. Elle est... faisait. Il faudrait un sage pour pouvoir utiliser avec sagesse la télévision. Mais c'est là où la technique l'a emporté sur la sagesse. Ça, c'est très net. Alors, à la place de d'aider, elle fait qu'une humanité va s'enfuir elle-même, très fière de toutes ses inventions, sans voir que toutes ses inventions l'arrêtent à progresser profondément vers la recherche de la vérité. La recherche de la vérité. Ce qui structure profondément ma personne humaine. Et cet amour d'amitié, cette éclosion d'amour d'amitié, qui est quelque chose de si beau et de si grand, m'aide à cette recherche de la vérité. Toi, m'aider à cette recherche de la vérité. Si mon amitié est vraiment humaine, c'est-à-dire si j'aime dans l'ami ce qu'il y a de meilleur en lui. Or, ce qu'il y a de meilleur en lui, cette recherche de la vérité. En chacun d'entre nous, ce qu'il y a de meilleur, c'est cette recherche de la vérité. Alors, avant de continuer, il y a deux petites questions. Quel est le nouveau regard que nous donne la prudence sur toutes nos limites? Je ne le vois pas tout de suite, on va le voir. Est-ce qu'on peut être autonome sans avoir la capacité de se gouverner? L'autonomie est antérieure à se gouverner. Hein. Vous comprenez bien. C'est pour ça que j'ai cité, c'est au niveau de l'être. C'est au niveau de la découverte de mon âme spirituelle. Évidemment, je ne comprendrai parfaitement cette autonomie que lorsque j'aurai découvert l'existence de l'être premier et ce lien et cette relation avec l'être premier au point de vue de la création. C'est là où je comprendrai comment être dépendant de Dieu ne supprime rien de l'autonomie. Ça, c'est grand problème de l'adoration. Une fois qu'on a découvert qu'être en relation avec l'être premier, c'est-à-dire Dieu créateur, c'est au contraire découvrir ce qu'il y a de merveilleux dans notre âme spirituelle. C'est d'être source de vie. Et d'avoir cette autonomie dans notre être. Une autonomie qui est dépendante de Dieu, qui vient de Dieu et qui est le don de Dieu. Si je suis autonome, c'est parce que Dieu me l'a donné. Donc c'est le don de Dieu. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que Dieu peut être donneur d'autonomie. Nous avons une peine énorme. Accepter que l'ami nous dépasse, c'est-à-dire de lui donner son autonomie. On ne lui donne pas vraiment, c'est pas nous qui lui donnons, mais de respecter son autonomie. Et c'est vrai, c'est un des points les plus difficiles à acquérir dans la vie, c'est ce respect de la croissance d'un être auprès de nous, qui nous dépasse. Alors que Dieu, c'est sa plus grande joie de voir ces petits bons hommes, ces petites bonnes femmes, qui ont une autonomie dans l'être. Dieu doit regarder ça avec étonnement. Ça vient de lui, alors c'est pas l'étonnement. Il sait, mais avec émerveillement, c'est plus juste de dire ça, un émerveillement extraordinaire. Et il aime de voir que nous avons utilisé cette autonomie et que nous l'utilisons pour la recherche de la vérité et que nous l'utilisons pour créer ces liens d'amitié dans sa lumière. Mais ça, c'est le problème du dépassement de la personne humaine découvrant l'existence d'un être premier. Parce que l'amour d'amitié à l'égard de l'ami ne me permet pas de découvrir vraiment mon dépassement. C'est un appel. Je crois que tout amour d'amitié est un appel à se dépasser. Mais ce n'est pas cela qui réalise ce dépassement. Ce dépassement ne se réalise que lorsque je découvre l'existence de Dieu et le problème du Dieu créateur. En réfléchissant sur le « je suis » et sur ma manière d'organiser ma vie, là où on est, et d'organiser ma vie depuis le moment où j'ai pris un tout petit peu conscience de ma responsabilité. L'âge de 7 ans, aujourd'hui c'est 4 ans, n'est-ce pas ? C'est ce qui est l'humanité progresse. Et c'est vrai, il y a des enfants qui sont étonnants comme sens de leur responsabilité. Étonnant. Je vous ai déjà cité cette phrase. Et cette petite fille, c'est la mère qui m'a dit. Alors, et comme je la connais bien, que c'est une excellente chrétienne. Elle a 9 enfants, je crois. Alors, cette petite qui est la 7e ou 8e, qui a 4 ans, dit « Maman, quand vais-je quitter cette prison ?» Ils n'ont pas la télévision. Hein. Quand vais-je quitter cette prison ? Parce que j'ai soif d'être moi-même. C'est étonnant, ça. C'est parti de cette espèce de bouillonnement intérieur des jeunes d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose comme ça qui est peut-être très beau et en même temps très dangereux. Parce que c'est des fruits précoces. Alors, tout le monde sait que les fruits précoces, il y a les gelées tardives. Et alors, le précoce et le tardif se rencontrent. Et ça fait quelque chose qui ne va plus du tout. Mais il y a en même temps quelque chose de très beau. Au point de vue. faisons maintenant de ce que c'est que l'acquisition de la prudence, cette sagesse pratique. Parce que c'est intéressant de voir que cette sagesse pratique, connais-toi toi-même, se connaître, ce n'est pas la recherche de la vérité dans ce qu'elle a de plus contemplatif qui nous permet de nous connaître parfaitement. Parce que en nous, il n'y a pas que l'aspiration vers quelque chose de très élevé. Il y a aussi, à cause du corps, à cause du problème moral, à cause du problème des vertus, il y a aussi en nous à éduquer en enlevant tout ce qui est de mauvais en nous, tous les germes plus ou moins anarchiques. Il y a à découvrir de plus en plus en nous tout ce qui est capable de mettre en nous une soif de plus en plus grande de la vérité. Et puis, une capacité que nous avons d'aimer vraiment ceux qui sont proches de nous. Une amitié et rayonnant autour de cette amitié un regard d'amour vis-à-vis de tous les hommes. Et cette prudence va nous faire comprendre que le capital de vie que nous avons se développe et a des modalités différentes suivant les différents moments de notre vie. Ça, c'est la prudence qui nous donne ce sens-là. Et c'est la prudence qui fait qu'on ne gère pas de la même manière un capital qui a 25 ans, un capital qui a 45 ans, un capital qui a 70 ans et plus. Ça ne se gère pas de la même façon. Et c'est ce capital humain que nous portons en nous. La vie est immanente. Et elle se développe dans l'immanence. Et il y a cette immanence. Elle doit dépasser cette immanence. Et il faut gérer cette immanence. Et là, c'est très vrai qu'il faut prendre conscience de cette multiplicité. La recherche de la vérité met en nous une soif de simplicité. L'amour d'amitié met en nous un désir de coopérer et d'aimer l'ami. Mais plus on aime l'ami, plus on recherche la vérité, plus on voit que tout cela se réalise dans la lutte. Il y a une lutte constante. Dans le milieu dans lequel nous sommes, le milieu extérieur et le milieu intérieur, le philosophe ne sait pas et ne connaît pas les conséquences du péché originel. Mais il s'aperçoit qu'il y a des résistances en lui. Il s'aperçoit qu'il y a en lui comme deux hommes, ce que saint Paul dit. Et ça, le philosophe s'en aperçoit, qu'il y a une tendance vers le bien, une tendance vers le mal. Il y a des complicités, et des complicités terribles quelquefois, qui semblent emporter. Quand on est vérité. Et cet amour d'amitié vis-à-vis des hommes se réalise dans la lutte. Il y a une lutte constante pour arriver à maintenir en nous quelque chose qui n'est pas ce que tous réclament, ce que tous demandent. Cette recherche de la vérité, ce véritable amour d'amitié. On doit donc accepter de lutter à certains moments seul. Le philosophe ne peut pas dire autrement. Quand il découvrira l'existence de Dieu, il pourra dire qu'il a un père, qu'il l'a créé, et qu'il lutte avec ce père. Mais tant qu'il n'a pas découvert l'existence de Dieu, il est obligé de constater cette lutte, sans très bien la connaître, force du mal, c'est tout, complicité du mal en nous. Et cette complicité du mal en nous peut prendre des formes très multiples. Il verra qu'il y a en lui l'imagination qui lutte constamment contre cette recherche de la vérité. C'est une lutte interne. C'est un monde, l'imaginaire. Et il verra dans notre monde d'aujourd'hui que la télévision, c'est magnifique comme invention, c'est étonnant comme invention. On peut être présent au monde entier. C'est quand même intéressant. Dans son fauteuil, présent au monde entier, dans son fauteuil, on voit des atrocités. On reste paisible dans son fauteuil. Il y a des déséquilibres qui se font comme ça, terribles. Parce que c'est difficile de pleurer devant la, quand la télévision nous montre des choses terribles. On les verrait, on pleurait. Et on les voit à la télévision et on pleure pas. Donc on s'habitue à l'image qui montre un monde de misère, de lutte, un monde d'atrocité. Et l'imagination fait que ce monde est présent imaginativement et que nous ne pouvons pas, parce que c'est imaginatif, c'est qu'une image, compatir. C'est très curieux ça. Donc on développe en nous une attitude intellectuelle imaginative qui fait qu'on est comme étranger à ça. On y assiste. On sait bien qu'on n'est pas étranger. On sait bien que ça pourrait venir très vite chez nous. Et quand même, on ne compatit pas. La télévision ne vous apprend pas à compatir. Non. Imagination. et nourrie artificiellement. Et qu'elle est nourrie, super nourrie, plus qu'elle ne peut recevoir. Elle reçoit des tas de choses qui la dépassent et qu'elle ne peut pas vraiment accepter. Vous voyez, on est comme gavé. On pourrait prendre des exemples très 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 précis là-dedans. On est comme gavé. L'imagination est comme gavée. Elle n'en peut plus. Et donc, il se défend. Le refoulement imaginatif terrible qui fait que l'imagination n'est plus saine. Elle est développée d'une manière qui est exagérée. Alors qui fait un déséquilibre. On sait bien. Elle fait un déséquilibre. On a de la peine à retrouver le réel. On a de la peine à le toucher. Oui, cela, c'est quand même ma prudence humaine qui doit constater cela. Je vis dans un milieu humain, et ce milieu humain, à la place de m'aider à devenir une vraie personne humaine, la plupart du temps, ce milieu humain est un milieu qui développe énormément mon imagination. En la développant trop, fait que l'imagination ne peut plus donner ce qu'elle doit donner. Il y a comme un autre monde imaginatif en moi qui se développe et qui m'empêche de toucher la réalité, d'être dans la réalité. J'ai une peine énorme de retrouver le contact avec le voisin, avec celui qui travaille avec moi et moi-même. Retrouver ce vrai contact. Je vis dans ce monde imaginaire. Et c'est une espèce de roman mondial que je porte en moi. Et qui est trop lourd pour surtout pour l'enfant. Et même pour l'adulte. Ça le dépasse. Ce qui fait que la lutte intérieure est beaucoup plus forte qu'avant. Il faudrait être beaucoup plus fort pour pouvoir l'emporter, pour pouvoir être vrai à l'égard de tout cela. Or, la plupart du temps, c'est l'inverse. L'éducation jeune qu'on a reçue n'a pas été assez forte. On s'est trop adapté à ce monde imaginatif. Et on l'a beaucoup plus caressé que lutté. Et ça pénètre partout, ça. Et ça détruit la famille dans son éducation. Ça détruit l'homme dans sa capacité de réflexion. Ça abîme son affectivité et ça fait un homme qui a une peine énorme d'avoir son autonomie. Parce que la télévision n'est pas du tout l'instrument qui vous donne l'autonomie. Ça vous montre les luttes constantes. Je crois que c'est un aspect qui est très important pour nous au plan philosophique de réfléchir là-dessus. C'est ce déséquilibre d'une imagination qui est nourrie d'une manière anormale, pas humaine, d'une manière artificielle. Elle est gavée. Alors ça peut donner quelquefois des choses assez étonnantes. C'est vrai, ça donne des choses assez étonnantes, quelquefois au point de vue de l'art. Parce que l'imagination liée à l'intelligence est quand même source d'inspiration. On le sait et on le verra. Ça fait partie de la personne humaine. Mais la plupart du temps, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus un obstacle que l'intelligence, dans son développement d'intelligence, de recherche de la vérité. Et au contraire, comme arrêter le poids lourd. Donc, constatons cela, que la lutte pour acquérir une vraie personnalité aujourd'hui est terrible. Tellement elle est forte. Et que téléguide les hommes, mais on ne les forme plus. On les oriente, on suscite des passions, du concupiscible et l'irascible par l'imaginaire, d'une manière très très forte, une emprise très très profonde qui fait qu'on n'est plus soi-même. Je constate ça au plan philosophique, vous voyez, au plan du chrétien. On aura une réponse, mais au plan philosophique, y a-t-il une réponse? Pas commode du tout, parce que au plan philosophique, on est seul, ça c'est sûr. On a des amis qui peuvent penser la même chose, donc on peut se retrouver et s'aider, s'entraider. Et l'amitié devient alors quelque chose d'autant plus nécessaire pour pouvoir parler de cela à cœur ouvert. Pour pouvoir dire ce qu'on pense vraiment et ce qu'on doit essayer de dépasser. Mais ça ne peut pas se dire tout le temps. On sent très bien que le milieu dans lequel on est ne reçoit pas cela, donc on se tait. Se taire indéfiniment, c'est pas humain, c'est trop lourd. Alors on a besoin d'amis. À travers cette lutte, il faut que mon intelligence pratique se développe, acquérir la vertu de prudence. Alors, regardons ce que c'est que cette vertu de prudence dans la lumière de la personne humaine. C'est vrai, j'étudie la prudence humaine en éthique. Et en éthique, je dois étudier la prudence humaine comme une vertu qui me permet d'organiser tout en vue de la finalité. De mettre toutes mes capacités au service de l'acquisition de l'amour d'amitié. Et c'est vrai, puisque c'est mon bien, puisque c'est ma fin. Ici, j'essaie de comprendre quelque chose qui va plus loin. De comprendre comment cette vertu de prudence, je dois l'acquérir pour que ma personne humaine soit victorieuse de toutes les luttes dans lesquelles elle se trouve, et pour que le développement de la recherche de la vérité et d'un amour d'amitié soit tout à fait authentique, tout à fait vrai. Donc la première œuvre de la prudence dans la formation de la personne humaine, c'est de me donner cette très grande lucidité. Le combat dans lequel on est nous dépasse tous. Ça, c'est sûr. Mais il y a quelque chose où on peut garder d'une manière positive, c'est cette lucidité dans cette lutte. En définitive, l'homme peut toujours garder cette lucidité, sauf s'il devient prisonnier et qu'on agit sur lui d'une manière manière telle les camps de concentration. Il perd cette lucidité. Et remarquez, c'est la première chose dans les camps de concentration qu'on essaie de supprimer. C'est très net. Et ça, c'est très violent. C'est pire que l'esclavage, vous voyez, ancien, les camps de concentration. C'est pire. Parce que c'est la destruction de la prudence humaine. Alors comme c'est la destruction de la prudence humaine, c'est la destruction de la lucidité de l'homme. Et on voit ça, ces répercussions, on dit, dans ces pays qui ont été soumis à des régimes totalitaires violents. Il y a comme la mort de l'âme d'un pays. Et il faut une force énorme pour reprendre. Victorieusement. Cette recherche de la vérité pour avoir une nouvelle lucidité, c'est sûr que quand on sort de là, on est fortifié, on est vacciné. Hein. Et la recherche de la vérité prend une signification bien plus profonde que lorsque, de fait, tout a été paisible dans notre vie et que tout a été un peu embourgeoisé. Je crois que la première chose que la prudence nous donne, c'est cette lucidité, cette conscience que nous sommes des esprits et que l'esprit échappe en partie, dans la mesure où il est assez fort, échappe à l'influence du milieu, qu'il y a en moi la possibilité de choisir une fin et de l'aimer, l'ami, qu'il y a en moi la possibilité de rechercher la vérité, si je ne suis pas trop abîmé, si j'ai encore suffisamment de force pour cette recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité donne cette lucidité, du moins la prudence me donne cette lucidité pour cette recherche de la vérité. La prudence va aussi me faire comprendre que je dois lutter constamment contre l'irascible, le concupiscible qui agissent sur ma volonté et qui m'empêchent de demeurer dans une attitude droite de justice. Cette lucidité de la prudence me fait comprendre que je dois acquérir pour être une vraie personne humaine autant que je le peux, ce qu'on a appelé traditionnellement les vertus cardinales. Et la prudence fait partie de ces vertus cardinales. La prudence, la justice, dans la volonté. Et si j'ai subi des violences, camp de concentration, si j'ai subi des violences, normalement mon sens de la justice devrait être très aiguisé. Parce que on a violenté ce qu'il y a de plus profond en moi. Ce droit à la vérité. On m'a mis dans des conditions telles que je ne pouvais plus avoir cette lucidité, cette recherche de la vérité. Et ça, dois me donner cette lucidité dans ma propre recherche de la vérité et dans ma capacité d'aimer quelqu'un vraiment pour lui-même. La prudence doit augmenter en moi ce sens de mes droits et des droits des autres. Qu'est-ce que ça représente, ce droit à la vérité, ce droit à être quelqu'un qui doit aider les autres à acquérir eux aussi cette lucidité et ce sens de la justice. Je crois que les deux vont ensemble, vous voyez, et c'est vraiment la prudence qui permet cela, de lutter contre toutes les injustices. Alors évidemment, je ne peux pas lutter contre toutes les injustices. Cette injustice la plus terrible, c'est le mensonge. Et toutes les propagandes, de droite ou de gauche, ne respectent pas ce droit à la vérité. Et on transmet des choses fausses. Des choses fausses par le mensonge. C'est très troublant pour ceux qui ne sont pas encore formés et qui n'ont pas encore acquis la recherche de la vérité. Je crois que c'est ce mensonge Platon. personnelle par la contemplation qui n'était plus une éthique, qui était la contemplation, on dirait aujourd'hui l'évasion. Il y a des gens qui s'en tirent comme ça. Ils s'évadent dans leur vie intellectuelle, et puis dans la vie ordinaire, morale, on s'adapte, on fait comme tout le monde. Vous voyez, ça fait une division à l'intérieur de la personne humaine qui fait que tôt ou tard, ça tombe. Parce que dans la personne humaine, il y a une exigence d'harmonie et d'unité. Je ne peux pas séparer cette soif de vérité, de contemplation, de la vérité prudentielle, morale. Et j'aurai la tentation aujourd'hui, c'est peut-être le mal le plus profond, de séparer les deux. Il y a ma vie individuelle, personnelle, et puis il y a ma vie politique, communautaire. Alors, il y a deux vies. Et dans ma vie personnelle, personne n'a rien pour le dire. C'est ma vie personnelle. Et il n'y a plus de morale. On se laisse aller uniquement à ce qui se fait habituellement. Or, ce qui se fait habituellement n'est pas très moral. Et vous voyez, ceci, ça vient que les propagandes sont mensongères, que les informations sont mensongères. On crée un climat de mensonge. Et ce climat de mensonge fait qu'on n'arrive plus à maintenir le sens du droit de la personne humaine. Qui a un droit à la vérité. Elle n'a pas un droit à l'erreur et au mensonge. Le mensonge est toujours quelque chose de violent pour quelqu'un qui cherche la vérité. Donc il y a, avec la prudence, la recherche de la vertu du justice. Cette recherche de la vertu de justice est capitale pour l'engagement humain, pour que l'homme ait confiance en l'homme, il faut que l'homme cherche la justice. Si l'homme ne cherche pas la justice, l'homme n'aura plus confiance dans son semblable. Vous voyez, et progressivement, l'amour d'amitié sera miné. Je crois que quand il n'y a plus de justice, il ne peut plus y avoir une véritable amitié. Quand il n'y a plus de justice, quand il n'y a plus ce respect de la personne humaine, le terrain sur lequel est né l'amour d'amitié est un terrain lézardé, miné, et tout craque. Normalement, l'amour d'amitié augmente le respect de l'autre et le sens du droit. Mais quand le sens du droit est lézardé,